Chapitre 9. Le lendemain matin, le groupe de voyageurs se tenait à l'extrémité du long pont délabré, l'œil fixé sur Lude. Les rêves d'Eddie concernant de vieux elfes pleins de sagesse qui auraient maintenu en état de marche des machines que pourraient utiliser les pèlerins avaient fait long feu. Maintenant qu'ils en étaient si proches, il apercevait des brèches dans la cité. Des blocs entiers d'édifices avaient été brûlés ou soufflés par des explosions. La ligne des toits lui évoqua une mâchoire malade déjà partiellement édentée. Certes, nombre de bâtiments étaient toujours debout, mais leur aspect désolé, désaffecté, emplit Eddie d'une mélancolie qui ne lui était pas habituelle. Sans compter que le pont séparant les voyageurs de ce labyrinthe d'acier et de béton en ruine paraissait tout sauf solide et éternel. Les crochets verticaux de gauche s'affaissaient mollement. Ceux qui restaient à droite hurlaient sous l'effet de la tension. Le tablier était constitué de caissons trapézoïdaux. Certains s'étaient gauchis vers le haut, révélant de noires béances. D'autres étaient de guingois. Si la plupart de ces derniers s'étaient à peine fissurés, d'autres étaient brisés, formant des brèches assez grandes pour laisser passer des camions, de gros camions. Là où âme et ourdi avaient disparu, il distinguait la rive boueuse et les auvers de gris de la Sainte, au-delà. Eddie estima la distance entre le tablier et l'eau à 90 mètres au centre du pont. Estimation modeste, probablement. Il observa les énormes caissons de béton où s'ancraient les câbles porteurs. Celui de droite semblait en partie arraché du sol. Eddie jugea plus sage de ne pas mentionner le fait aux autres que le pont oscilla lentement mais de façon perceptible suffisait. Rien qu'à le regarder, il souffrait déjà du mal de mer. « Eh bien ? » demanda-t-il à Roland. « Qu'en penses-tu ? » Le pistolero désigna le flanc droit du pont. Une passerelle inclinée d'environ 1,50 m de large y courait, édifiée sur des caissons de béton plus petits, et constituant un tablier à part, segmenté, soutenu par un sous-câble ou peut-être une épaisse tige d'acier, et fixé au câble porteur par d'énormes crampons arqués. Eddie examina le plus proche avec l'intérêt avide de celui qui risque de confier bientôt sa vie à l'objet de son examen. Le crampon, bien que rouillé, paraissait solide. Une inscription était gravée dans son métal. Fonderie Lamerck. Eddie, fasciné, s'aperçut qu'il ne savait plus si les mots étaient du haut-parler ou de l'anglais. « Je pense que nous pouvons l'utiliser, » dit Roland. « Il n'y a qu'un endroit à problème. Tu le vois ?»«
Ouais. Difficile de faire autrement. »
Le pont mesurait au moins 400 mètres. Il n'avait sans doute pas été entretenu depuis plus d'un siècle, mais pour Roland, il ne s'était réellement détérioré qu'au cours des 50 dernières années. La rupture des crampons de droite avait accentué son inclinaison sur la gauche. La torsion la plus forte s'était produite en son milieu, entre les deux tours de câble hautes de 120 mètres. Au point de torsion maximale, un trou béant en forme d'œil courait le long du tablier. La brèche de la passerelle était moins importante. Deux caissons adjacents au moins étaient cependant tombés dans la Seine, creusant un fossé de 6 à 9 mètres de large. À l'emplacement des caissons disparus, ils apercevaient nettement la tige d'acier rouillée, ou le câble qui soutenait la passerelle. Ils allaient devoir s'en servir pour passer le trou. « À mon sens, on peut y aller, » dit Roland en désignant calmement le pont. « La brèche pose un problème, mais la rambarde de sécurité existe encore. On pourra se tenir à quelque chose. » Eddie acquiesça d'un hochement du menton. Son cœur, toutefois, cognait douloureusement dans sa poitrine. La tige de soutien visible de la passerelle ressemblait à un gros tuyau fait d'acier articulé et mesurait probablement 1,20 m de large, au sommet. En esprit, il visualisa la traversée, les pieds sur le large dos légèrement incurvé du câble, les mains agrippant la rambarde, tandis que le pont tangrait lentement tel un navire pris dans une faible houle.
«
bon Dieu ! S'écria-t-il. Il voulut cracher, il n'avait plus de salive, sa bouche était trop sèche.
« T'es sûr, Roland ?»«
Je ne vois pas d'autre possibilité. »
Le pistolero désigna le fleuve. Eddie aperçut un second pont, depuis longtemps effondré dans la Seine, celui-là. Ses vestiges saillaient de l'eau en un enchevêtrement rouillé de vieil acier.
« Qu'en penses-tu, Jake ?» demanda Susanna. « Oh, ça baigne !» rétorqua le garçon du tac au tac, et de fait il souriait. « Je te déteste, môme !» fit Eddie, que Roland observait, la mine à bras soucieuse.
« Si tu ne te sens pas capable de le faire, dis-le. Ne va pas te tétaniser à mi-parcours. »
Eddie fit courir son regard un long moment sur la surface tordue du pont, puis opina.
« J'y arriverai, je crois.
Les hauteurs n'ont jamais été ma tasse de thé. »«
Bien. »
Roland regarda chacun tour à tour.
« Plus tôt on s'y mettra, plus vite on aura fini. » »« Je passe le premier, avec Susanna. Jake et Eddie suivront en arrière-garde. »« Tu peux t'occuper du fauteuil ?»«
Je veux, mon neveu, » répondit Eddie avec désinvolture.
« Dans ce cas, en route. »